Histoire de voir, histoire au pluriel, une émission sur les révoltes, luttes et résistances populaires, avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social, des écrivains, des chercheurs, des artistes. Rendez-vous tous les mardis en direct de 13 à 14 heures ou en différé sur laclédesondes.fr. Histoire de voir, histoire au pluriel.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, très heureux de vous retrouver. Ce jour va se dérouler en deux parties. La première partie, c'est les suites de l'affaire Guillaume Meurice sur France Inter, était mise en cause dans une de ses chroniques que vous suivez peut-être, en disant « Netanyahou, c'est une sorte de nazi mais sans prépuce, c'est bon ». Et le procureur qui a étudié le dossier a dit qu'il n'y avait pas de problème, c'était bien bon et qu'il n'y avait pas de souci. Il a refait une intervention la semaine dernière, dimanche 30 avril plutôt, dans une émission humoristique qui s'appelle Le Grand Dimanche Soir et qui remplace une émission quotidienne dans laquelle sévissait toute cette équipe à la fois pointue dans l'humour et très proche de l'actualité. Et sa direction a décidé de le suspendre. Alors, je vais vous faire un petit extrait de son émission pour voir la tenue de cet humoriste, hein. Et vous faire votre avis vous-même. Et puis un micro-trottoir, car samedi dernier, Guillaume Meurice était invité à la librairie La Mauvaise Réputation, et il faut croire qu'elle n'a pas une si mauvaise réputation que ça, parce qu'il y avait plusieurs dizaines, je ne vais pas dire centaines, parce que j'exagérerais un peu, mais de personnes qui faisaient la queue pour venir se faire dédicacer son ouvrage. Comme quoi la censure, ça peut avoir aussi un effet stimulant, que nous nous inquiétons, même si c'est une question qui peut paraître un peu annexe quant à ce qui se passe en Palestine aujourd'hui. Franchement, on a de quoi s'inquiéter, que ce soit la poursuite d'hommes et de femmes politiques par rapport à des propos qu'ils ont tenus qui sont remis en cause par des gens qui portent plainte contre eux en les taxant d'antisémites. Mais c'est des hommes politiques, c'est des femmes politiques, ce sont aussi des syndicalistes, et cette atteinte permanente aux libertés devient vraiment problématique dans notre pays. La deuxième partie de l'émission dans laquelle j'étais invité, c'est Histoire de Palestine, hein, c'est le lundi de 19h à 20h, et c'est animé par l'UJFP entre autres, et Isabelle, dans cette émission, m'interviewait sur la semaine que nous avons réalisée, du 7 au 14 mars dernier, qui s'appelait Exil, des mondes passés, des territoires d'avenir, dans lequel vous verrez dans les échanges, l'actualité là aussi est présente. Alors on vous souhaite une très bonne émission. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour ceux qui sont sur Bègle, nous sommes présents pendant du 6 au 21 mai, et nous présenterons une exposition sur le clown chocolat, un héros ou un personnage que nous n'oublions pas. Et ben, je vous invite à venir voir l'exposition au chapiteau à ce moment-là. Bonne émission à vous et à très vite.
Guillaume Meurice en avait fait une chronique d'ailleurs, je me souviens bien de cette affaire. Parce que vous allez avec votre petit micro comme ça.
Oui, je fais ça.
Comme ça, à l'air de rien, comme ça, il part en rue. Hein, il nous ramène des trucs et bam, ça explose dans les oreilles. Voici Guillaume Meurice.
Merci. Merci les amis. Merci. Je vais vous parler des élections européennes aujourd'hui en étant très très vigilant parce qu'on est en période électorale. Donc il faut équilibrer, hein, n'est-ce pas Charline?
Oui, s'il vous plaît.
Ou plutôt maîtresse Yoda, comme on vous appelle ici, et dans votre donjon SM. Donc, Il y a des choses que je peux pas dire. Par exemple, si je dis arrêtez de voter pour des fachos qui confondent les élections avec leur névrose et se pignolent sur leur xénophobie, et non, je peux pas le dire parce que vous avez reconnu Bardella et Marion Maréchal Le Pen, et donc ça fausserait l'élection. Alors il y a des choses qu'on peut dire. Par exemple, si je dis Netanyahou est une sorte de nazi mais sans prépuce, c'est bon. Le procureur il a dit c'est bon. Il a dit cette semaine. Donc ça, allez-y. Vous pouvez vous en faites des mugs, des t-shirts. C'est ma première blague autorisée par la loi française. Excusez-moi, je fais ça avec vous. Mais là...
Alors voilà, donc on est devant la mauvaise réputation et visiblement notre ami Guillaume Meurice, lui, il a une bonne réputation parce que aujourd'hui, samedi, il y a environ 150 personnes qui viennent faire la queue pour voir son livre suite à ce qui lui arrive pas la clé des ondes, mais sur France Inter. Il va être licencié pour sa liberté de ton. Alors je suis avec Sandra, là, je rencontre Sandra, quelques amis qui sont présents, bien sûr. Donc Sandra, quel est ton point de vue à toi ?
Mais mon point de vue, il est qu'on a besoin de gens courageux comme Guillaume Meurice. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour pouvoir éventuellement échanger deux mots avec lui, pour le remercier de son courage. Parce qu'on est quand même très inquiet par rapport à la liberté d'expression qui est là largement attaquée par ce gouvernement qui a des positionnements d'extrême droite lui-même et qui fait monter l'extrême droite. Donc quand même très inquiet de tout ce qui se passe. Mais ça fait du bien d'avoir des résistants comme Guillaume Meurice.
Voilà, puis en plus, ce n'est pas forcément triste hein, parce que l'humour est là. Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, on nous intimait l'ordre d'être Charlie. Et bien aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est on va être Meurice.
Tout à fait, on est Meurice, on le soutient à fond. Et d'autant plus que je connais le livre précédent qu'il a fait, je le connais très bien, Petit éloge de la médiocrité, que nous avons arpenté à l'Université populaire de Bordeaux à 3 reprises, et que je vous conseille vraiment, il fait un bien fou, il fait redescendre toutes... les gens qui se prennent au sérieux, là, qui voudraient discriminer les autres, enfin, tous ces trucs dont on n'a pas besoin dans cette société. On a besoin d'être ensemble, de vivre ensemble, d'échanger, de partager. On n'a pas besoin de discrimination.
Ben merci beaucoup Sandra. Donc vous avez reconnu Sandra hein, et Marc qui animent plusieurs de nos émissions et qui là, bien sûr, prête à dire ce qu'elle a à dire. Et il le dit très bien. Merci Sandra. Alors décidément, la clé des ondes est bien représentée parce que bon... je suis avec Philippe là, qui anime beaucoup de choses, Philou, qui anime beaucoup d'émissions sur la clé, puis qui est un ancien, un vieux de la vieille, si je puis dire, et qui fait surtout partie et qui anime le comité Georges-Ibrahim Abdallah, et qu'on retrouve aujourd'hui devant la mauvaise réputation, qui n'est pas si mauvaise que ça. Alors dis-nous, Philippe.
Eh bien, moi je suis venu maintenant, là, parce qu'on m'a dit que Guillaume Meurice était venu ici, que je suis scandalisé par effectivement la situation actuelle où pour dire un jugement, il y a une menace de licenciement, donc ça montre le climat délétère et dans lequel on est dans ce pays, que je suis horrifié par toute la propagation de ces discours sur des mains rouges, qu'on se dit, ah, tu sais, c'est un truc qui remonte à il y a 20 ans, c'est évident qu'il pensait à ça. C'est dans tout un minimum de raisonnement, on va chercher l'histoire de ces mains rouges, etc. Mais peu importe l'information aujourd'hui, c'est à propos. Et donc, je venais aussi pour vérifier si dans la librairie, il n'y avait pas dans Les Oubliettes de la République, qui est une bande dessinée qui est sortie le 2 mai, justement, jeudi, par le scénariste Pierre Carl et le dessinateur Malo Kerfrieden. Et donc c'est une bande dessinée qui raconte à la fois le scénario sur lequel travaille Pierre Carl depuis presque 10 ans, de nombreuses années. Voilà,
c'est le plus vieux, je crois que c'est le plus vieux prisonnier politique au moins européen.
Européen, oui, puisque quand il s'est Mounir Boudjamal et Léonard Pelletier des prisonniers politiques encore plus anciens. Mais au moins en Europe, oui, c'est le plus vieux prisonnier politique. Alors, on va pas plus vieux parce qu'il est dans sa 40e année de détention, il a 73 ans. Donc, Mais il y en a qui ont 40 ans. Par contre, sa détention n'est qu'une décision politique, puisqu'il a été condamné à perpétuité dans le contexte justement que la bande dessinée explique, et qui, les juges ont dit, il peut être libéré si l'exécutif émet un arrêt d'expulsion. Donc c'est en ce sens que son maintien en détention est politique. Elle relève que de l'exécutif. Et donc dans cette BD, on relate justement cette histoire, le scénario du film, et on va se balader de l'Algérie, où des gens ont revendiqué les exécutions dont Georges est accusé d'être complice, et Georges Abdallah, et on remonte, on va en Italie, au Liban, en Algérie, et donc en France, et donc cette implication à la fois, la cible de Pierre Karl, c'est à la fois l'implication des États-Unis, donc les messages, les blancs de Hillary Clinton d'un côté, et de l'autre le rôle des médias, qui est très important dedans, qui ont propagé les accusations, et donc c'est à la fois tous ces documents, tout ça s'est documenté, et on rentre dans cette affaire, dans l'affaire Georges Abdallah, et donc ça se lit très facilement. C'est une bande dessinée, donc c'est accessible à tous, et donc Échiché Delcourt.
D'accord, voilà, et le titre, tu rappelles ?
Je rappelle le titre, donc c'est Dans les oubliettes de la République.
Très bien.
Et pas que la République, beaucoup de mouvements politiques l'ont oublié, semble-t-il, malheureusement. Ouais. Donc voilà.
Oui, parce que ça dérange, et on voit bien que cette actualité d'oubli, et c'est une construction, hein, puisque l'affaire Maurice qui nous amène aujourd'hui, c'est une voix discordante qui dérange sur France Inter, la radio du service public théoriquement, et qui est bâillonnée, on va dire. Hein. Donc l'ORTF est de retour, parmi les autres inquiétudes que l'on peut avoir en tant que démocrate sur les poursuites de présidents de partis, de groupes parlementaires, de syndicalistes. Il y a près d'un millier de syndicalistes, alors pas directement liés à l'actualité de la planète du Proche-Orient, mais sur la défense des droits des retraites, qui sont poursuivis aujourd'hui par cette justice. Bon, ça devient tout à fait effarant. Ben écoute, Philippe, voilà, bonne queue pour... parce que là ça s'étoffe, il y a de plus en plus de monde, et je crois que ça sera peut-être la plus grosse manifestation palestine de Bordeaux, puisque on peut regretter qu'à Bordeaux, eh bien, le mouvement ne soit pas unitaire comme dans d'autres villes. Mais ça viendra, on construit. Nous sommes à Bordeaux, je le disais à l'instant, et bien sûr, notre ami et camarade, frère de combat, de lutte et de tout, André Rosweg, un des principaux militants de l'Union juive pour la paix, mais il y en a d'autres à Bordeaux et au niveau national, qui distribue un tract de l'UJFP sur sa lettre d'information du 30 avril, donc c'est tout à fait récent, avec un titre Gaza en France, une police de la pensée pour blanchir le génocide. Alors justement, nous sommes, je le répète, devant la librairie La Mauvaise Réputation, où il y a vraiment énormément de monde. André est venu distribuer ce tract, qui d'ailleurs était très très bien pris. Donc, cher ami et camarade, dis-nous quelques mots à la fois de l'affaire de Meurice, mais aussi de ce qui se passe sur Gaza.
Eh bien,
et ailleurs.
Le communiqué de l'UJFP date du 28 avril. Il est en tête de la lettre d'information du 30 avril que je distribue ici. Et malheureusement, ce communiqué, qui est tout à fait dans l'esprit de ce rassemblement spontané pour participer à la présence de Guillaume Meurice, n'évoque pas Guillaume Meurice parce que nous n'avions pas à ce moment-là l'information, mais il entre totalement dans le même sujet, c'est-à-dire que de même que les autorités interdisent des rassemblements pour la Palestine, de même que l'accusation de confusion entre antisionisme et antisémitisme se poursuit avec Macron, chef d'orchestre de cette manipulation, on voit quelqu'un comme Guillaume Meurice convoqué par sa directrice présidente pour avoir...
Tu parles de l'épouse, tu parles de la compagne d'Eindhoven ? Du philosophe.
Je n'entrerai pas dans ces problèmes de vie privée, mais je constate qu'effectivement, il y a une connivence invraisemblable pour essayer de discréditer toute critique d'Israël. Il se trouve que j'étais juste avant au rassemblement Éducation Gaza 33. Je ne sais pas si tu as eu déjà des intervenants qui en ont parlé. qui, bien sûr, c'est une mobilisation fort intéressante du milieu éducatif, des enseignants, des personnels, mais en même temps qu'on sait qu'il y a une mobilisation des étudiants et des lycéens aujourd'hui contre les massacres et l'entreprise génocidaire en cours à Gaza. Je crois que sur ce plan éducatif aussi, il y a des choses assez invraisemblables. J'en citerai deux. La première, c'est la distribution à tous les élèves du primaire d'un livret sur les Jeux Olympiques où on trouve le moyen subrepticement...
À 4 millions d'exemplaires. Hein.
Alors, c'est 4 millions d'exemplaires avec distribution d'une pièce de monnaie de 2 euros commémorative des Jeux Olympiques distribuée donc à tous les enfants. Certains pensent que ça va être une pièce de collection et donc ont déjà commencé à essayer de voir s'ils peuvent la revendre. Mais d'ailleurs, une pièce qui, pour représenter la France, choisit deux monuments, la Tour Eiffel et la cathédrale de Marseille. On sait l'attachement de Macron à Marseille. De là à représenter la République laïque par ces deux monuments, on peut s'amuser à s'en inquiéter. Mais ce n'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est effectivement aujourd'hui, à propos des Jeux Olympiques, où on voit cette mascarade se développer médiatiquement, on voit que, à juste titre, les athlètes russes et biélorusses, en fonction de la charte olympique, se voient exclus des Jeux, mais que ça n'est pas le cas des athlètes israéliens.
Qui est un pays en guerre.
Qui est un pays en guerre. Et j'irai même plus loin, on peut même se demander si la charte olympique disant qu'un pays en guerre ne doit pas être aux Jeux olympiques, est-ce qu'il est vraiment convenable que la France, dont Macron a dit que c'était un pays en guerre, soit aujourd'hui l'organisateur des Jeux olympiques. On peut se poser la question. On peut au moins espérer que pendant la trêve olympique, il arrête de fournir des munitions à Israël comme actuellement il le fait, ou qu'il arrête de recevoir à Eurosatory 70 entreprises israéliennes d'armement et de sécurité, c'est-à-dire une des délégations étrangères les plus importantes, puisque dans le soft power d'Israël, il y a un power qui n'est pas si soft que ça et qui est son expertise en matière d'armement et de sécurité.
Alors, on comprend bien pourquoi Guillaume Meurice dérange, en fait.
Bien sûr. Je donnerai un autre exemple de la couardise occidentale face aux crimes israéliens, ou la complicité, c'est le rapport Colonna. Alors, je ne sais pas, j'en profite pour en dire un mot. L'ONU a fait l'objet de critiques extrêmement violentes de la part d'Israël en raison du fait qu'il y aurait eu, parmi les milliers de salariés de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, il y en aurait eu qui auraient franchi la barrière de sécurité le 7 octobre. Et donc, Israël, n'ayant pas peur des mots, considère que le secrétaire général de l'ONU et que le directeur de l'UNRWA sont des agents de l'antisémitisme ou complices du terrorisme du Hamas. Parce que, tant qu'à faire, autant y aller franchement. Face à cette attaque violente, quelle est la réponse de l'ONU? Elle demande de cesser le feu, ça. Mais elle a commandé une enquête sur l'UNRWA. Et elle l'a demandé à quelqu'un qui se trouvait être disponible, puisque Mme Colonna a été dégagée de ses responsabilités. J'ai dit dégagée de ses responsabilités aux affaires étrangères françaises. Et donc c'est à elle qu'on a confié le rapport sur l'UNRWA. Résultat, elle fait un rapport que la presse appelle un rapport nuancé. C'est-à-dire qu'elle dit que... pardon. On est interrompu tout le temps, il y a trop de monde ici.
Il y a trop
ici.
De distributeurs de
JFR. Hein. Mais, donc, elle dit que, d'une part, il n'y a pas de preuve de la participation de salariés de l'UNRWA au crime contre des civils le 7 octobre, et elle demande qu'il y ait une enquête, et elle en profite pour ressortir un vieux serpent de mer qui est celui des... manuel scolaire palestinien. Alors, vous le savez peut-être, je ne sais pas si on en a parlé depuis longtemps, mais un des motifs d'attaque de l'Israël contre l'UNRWA et contre les Palestiniens, c'est que les manuels palestiniens ne seraient pas gentils avec Israël et qu'éventuellement il y aurait des traces d'antisémitisme. Il semblerait qu'il y ait eu des traces d'antisémitisme, mais que ces traces d'antisémitisme ont été à plusieurs reprises corrigées, mais qui resterait peut-être des allusions. Et donc elle parle même du fait que Il y a des choses qui ne sont pas correctes. En gros, dans les manuels palestiniens, on ne reconnaîtrait pas vraiment Israël. On donnerait le nom de ville sans dire qu'elles sont dans un pays qui s'appellerait Israël. En gros, alors qu'Israël se refuse à reconnaître la Palestine, on reproche aux manuels palestiniens de ne pas reconnaître Israël. On va même considérer que leur antisionisme, c'est-à-dire le fait qu'ils sont contre un État juif, qui les a dépossédés de leur terre, oui. Ce serait de l'antisémitisme. C'est quand même assez croquignolesque. Eh bien, oui, je crois que le rapport Colonna est bien à l'exemple de cette couardise occidentale qui aimerait bien qu'il y ait un cessez-le-feu, mais qui n'est pas prêt à l'imposer.
Ben merci beaucoup André, tu es toujours un puits de science et d'apprentissage et de découverte de beaucoup de choses. Merci à toi. Alors je suis avec
Alain Rayet de la FSU Gironde.
Que je connais bien sûr de vue parce qu'on s'est vu dans les manifs, mais lui il est toujours très occupé dans ces cas-là. Et qui vient aussi lui devant la librairie La Mauvaise Réputation, qui aujourd'hui visiblement a une bonne réputation, puisque Guillaume Meurice vient faire une dédicace. Vous savez, Guillaume Meurice, c'est celui qui vient de se faire licencier ou qui va se faire licencier par une patronne de France Inter qui est très très engagée justement pour le non-respect de la pluralité. Alors voilà, bonjour à toi. Et merci, je crois que tu reviens d'un rassemblement.
Oui, je reviens d'un rassemblement en soutien avec éducation, avec Gaza, un collectif d'enseignants qui se mobilise contre ce qui se passe d'horrible sur la bande de Gaza et d'une manière générale en Palestine. Aujourd'hui, il n'y a plus une école, il n'y a plus une université, il y a des tas d'enfants qui sont morts dans leurs écoles. C'est une catastrophe. On a vraiment bafoué le droit à l'éducation, le droit international à l'éducation. Israël bafoue le droit à l'éducation aujourd'hui. Voilà, c'est grave ce qui se passe et on ne peut que réagir fortement et vivement contre ça. Voilà.
Alors justement, FSU c'est l'enseignement c'est les enfants c'est les étudiants, et on voit qu'en France et comme partout dans le monde aujourd'hui, l'opinion publique, celle qui réfléchit, celle qui a du cœur et celle qui se met en mouvement aujourd'hui, dépasse le cadre de ce que voudraient nos gouvernements respectifs.
Moi, je crois que les enfants, l'éducation, c'est d'abord l'esprit critique. Moi, je suis enseignant en technologie. Je ne fais pas de la technologie, j'essaie de faire réfléchir mes élèves. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est l'esprit critique qui doit être construit et qui doit être reconstruit en France. Aujourd'hui, l'école en France, pareil, est en train de casser l'école aussi. Voilà, cet esprit critique, c'est marche ou crève. Et je crois qu'on a besoin de reconstruire un petit peu l'école aussi en France. Guillaume Meurice, c'est exactement ça. C'est la liberté d'expression qui est complètement bafouée aussi. C'est-à-dire que quelque chose qui est jugé illégal n'a pas le droit d'être dit sur France Inter. Je pense que là, on dépasse les bornes de la démocratie, de la République. Je pense qu'aujourd'hui, les grands médias comme France Inter doivent se repositionner, se poser des questions. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Qu'est-ce que c'est que la République aujourd'hui? C'est grave ce qui se passe aujourd'hui. J'ai peur vraiment pour ce qui va pour l'avenir, pour le droit à la liberté, pour le droit à l'expression, pour le droit à l'éducation, pour le droit à la critique aujourd'hui en France.
Ben, je te remercie beaucoup. Hein. Tu vois, tu voulais pas dire grand-chose, mais tu as dit l'essentiel. Hein. C'est-à-dire que tout commence à l'école et la liberté critique, comme tu viens d'insister sur ces propos-là.
J'ai qu'un seul regret, c'est que la queue est vraiment trop longue pour acheter deux bouquins. Ouais. Et je crois qu'on va faire autrement. Et c'est une excellente chose. Voilà, donc tant mieux. Vive Guillaume Meurice et vive les critiques en France.
Merci à toi.
Merci. De la Pays.
Alors bonjour, je suis avec Jean-Luc de la Pays qui est aussi présent, qui est aussi un camarade de notre chère radio La Clé des Ondes, une radio qui est engagée, une radio qui est associative, qui est aux côtés de ceux qui luttent, de ceux qui résistent, et il anime notamment l'émission AC contre le chômage, qui est aussi un intervenant, si je peux dire, de notre chère radio La Clé des Ondes, un militant associatif et qui est de l'entrée de cette librairie La Mauvaise Réputation, mais qui, comme je disais tout à l'heure, énormément de gens se présentent là pour rencontrer Guillaume Meurice, parce que comme on dit, on attend toujours la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors certes il pleut, mais peut-être que ces attaques incessantes contre la liberté d'expression peuvent concerner ce que Jean-Luc, on en parlait en aparté tous les deux.
Oui, déjà j'étais venu pour le soutenir dans sa lutte par rapport à France Inter, qu'il a quelque part, qui est en train de le virer parce qu'il a des propos que beaucoup de gens n'ont plus aujourd'hui sur la société, sur la réalité de la société. Une société, bien sûr, liberticide. Lui le voit au niveau des médias, nous on le voit, moi qui m'occupe de choses beaucoup plus terre-à-terre, c'est-à-dire les chômeurs et les précaires. On voit les attaques de la CAF, l'inhumanité d'un système qui vire tout le monde. Et au-delà de ça, oui, c'est soutenir une pensée qui va vers et qui dit, tant que nous resterons dans cette forme et dans ce capitalisme, qui, et c'est un de mes combats, je suis quand même très anticapitaliste, et tant que nous resterons dans le capitalisme, tous les pauvres et les chômeurs continueront à croître, et c'est une catastrophe, quoi, c'est une catastrophe à tous les niveaux.
Alors c'est une catastrophe et d'ailleurs par rapport à la critique qu'on fait sur par rapport à Israël et à cet état colonial, c'est que la plupart des produits qui arrivent de ces pays-là sont des produits qui sont fabriqués énormément par des travailleurs qui viennent du Pakistan ou d'ailleurs, avec un système bien sûr colonial, hein, tout simplement, au niveau des droits. Et la bataille que tu mènes avec l'API est justement pour préserver ces droits, pour pas de retourner à des esclavages ou une ubérisation à outrance. Et ça, c'est peut-être, ça vous semble pas forcément raccord, mais si, il y a des échos, parce qu'on s'inspire toujours du moins 10 ans social, l'état colonial israélien est dans cette dynamique-là.
Oui, tout à fait, c'est des états complètement impériaux, etc. On le retrouve en Russie aussi, hein. Ou en Amérique du Sud, ou en Afrique aussi, sur la guerre qu'il y a en ce moment en Afrique.
C'est un système. C'est pas lié au fait
c'est
que
la suite du système capitaliste. L'impérialisme n'est qu'un système capitaliste. Elle appartient au système capitaliste. Oui, on est d'accord. Hein. Nous, on se bat plus, bien sûr, en France, sur plein de choses par rapport à défendre tout simplement le chômeur qui est viré de France Travail ou de la CAF, etc. Bon, on a quelques moyens. Mais on voit bien qu'au niveau de France Travail, aujourd'hui, c'est... pauvériser, c'est sanctionner, c'est... Et alors, on dit, oui, il y a du travail, mais à quel prix? Comment ça payer? Les gens de travail n'arrivent plus à se loger. C'est quand même lamentable, quoi.
Donc ta présence ici signifie aussi que la solidarité internationale et internationaliste est toujours présente, que l'on soit chômeur, que l'on soit salarié, que l'on soit blanc, que l'on soit noir, que l'on soit juif, que l'on soit musulman. Voilà, la solidarité, elle passe à travers le monde du travail, des luttes que nous menons ensemble.
Et au niveau de ce que je pense sur Gaza, quand même, parce que je connais bien, j'ai eu des copains qui étaient calés en Israël, qui étaient des artistes, etc. C'était horrible pour eux. Je ne suis pas pro-Hamas, loin de là. Parce que le Hamas, il faut quand même savoir qu'au départ, a été financé en premier lieu par Israël. Donc il y a quand même des choses très étranges. Qui mange toujours, c'est les peuples. Le peuple palestinien, etc. Mais le reste, il ne faut pas être naïf, quoi. Ouais.
Je te remercie beaucoup
de ce rappel. De rien, avec plaisir.
Nous sommes toujours devant une librairie que vous connaissez, qui a une mauvaise réputation, donc qui est la mauvaise réputation, mais aujourd'hui c'est une grande réputation et belle réputation, parce qu'il y a beaucoup de monde, pour accueillir Guillaume Maurice, qui est un ami du propriétaire, hein, de cette librairie, que vous connaissez sûrement, c'est Rodolphe, alias Urps, qui est dessinateur de dessins satiriques et drôles, et qui nous fait le plaisir de répondre à l'interview. Rodolphe, quel coup magique, hein.
Ouais, c'est un hasard en fait, c'est qu'on avait déjà prévu la dédicace de Guillaume parce qu'il passait le soir même au Fémina en spectacle, et il se trouve que son licenciement est arrivé deux jours avant, l'annonce de son licenciement est arrivée deux jours avant à Radio France, donc c'est vrai que c'était un hasard. Donc en fait là, on hésite entre il est en dédicace ou il est en stage à la librairie pour une réinsertion professionnelle. Donc c'est vrai que... Mais...
Il attire du monde déjà.
Mais il attire du monde. Après, ouais. je pense que effectivement l'annonce un peu délirante de son renvoi de Radio France effectivement a fait la communication, la publication et la publicité à notre place.
Oui, alors il y a quelques années, il fallait être Charlie, et aujourd'hui, on est Meurice. Hein.
Ouais, c'est un peu ça.
C'est un peu ça. Alors donc, je plus sérieusement, pour toi qui es dessinateur et que tu n'es pas loin des fois de frôler des choses qui peuvent déranger fortement, ça pose quand même un problème au niveau de la liberté de création, je pense.
Ah, ça pose pas un problème, c'est juste la preuve quand même d'une trouille qui est encore phénoménale sur l'humour, en fait. L'humour fout encore la trouille aux dirigeants de grandes stations de radio ou aux dirigeants de journaux, ça c'est une évidence, ouais, bien sûr. Mais j'ai quand même l'impression que mes rédacteurs-chefs sont moins frileux que la direction de Radio France.
Oui, parce qu'en fait ça devient systémique, c'est-à-dire que l'émission là, qu'ils avaient toutes les semaines et qui avait un succès colossal a été... supprimé, si je pourrais être remplacé par une hebdo où le public n'est pas le même, et même ça dérange.
Ouais, c'est ça. Même ça, c'est gênant. Donc c'est vrai que c'est presque cocasse quand même. C'est grotesque, quoi. C'est grotesque. Ça se retournera contre Radio France à terme, évidemment, quoi. Évidemment, évidemment. En plus, tu tapes jamais sur un clown. Tu tapes jamais sur Guignol. Enfin, je veux dire. C'est...
Alors là, il y a une pétition qui circule. Je regardais. Là, on est passé à 75 000 signataires. Bon, moi, je suis pas un fanat des pétitions, mais bon, vous pouvez la signer parce que plus il y a de gens qui signent, plus ça prouve que ça touche, quoi.
Ouais, mais je suis pas un fanat des pétitions non plus. Il faut que Radio France la réintègre. Il faut pas faire des pétitions. Je veux dire, faut faire en sorte que Radio France le réintègre.
Ouais, mais, bah, d'ailleurs, la rédaction, c'est celui qui est avec lui. Semble.
Oui, bien sûr. Là, bien sûr. Ouais.
Bah, écoute, je sais que tu es débordé et puis que ça fait du monde. Tu retournes, je te remercie et puis on se retrouvera bien sûr. Hein. Donc sur la clé des ondes ou ailleurs. Hein. Salut.
Ouais, ciao.
Salut.
Et à toutes. Nous voici de retour pour l'émission Histoire de Palestine. Alors, nous aurons la chance de passer 2 heures avec vous, alors, en compagnie de plusieurs personnes que nous avons l'honneur de recevoir ce soir. André, de l'UJFP, que vous connaissez déjà. Peut-être Kassem, un médecin d'origine palestinienne qui travaille à l'hôpital de Royan. Et Jean-Pierre Lefebvre, président de l'association Pourquoi Pas, qui nous fera une petite rétrospective de la semaine très intéressante au Théâtre de l'Inox à Bordeaux. Et peut-être aurons-nous la chance de parler avec Sakina ou Philippe Arnaud au sujet de la campagne pour Georges Ibrahim Abdallah et de la journée de samedi dernier à Lannemezan. Je dis de suite que ce fut une réussite avec une très grosse manif d'environ 1500 personnes. Nous allons un peu extrapoler ce soir, parler de la Palestine bien sûr, puisque tel est le sujet de notre émission. Mais pas que. Nous parlerons d'art, de cuisine, de résilience et de tout ce qui peut nous aider à comprendre comment un peuple asservi et martyrisé arrive encore à créer, à lutter et tout simplement vivre. C'est une qualité commune aux peuples colonisés, aux peuples en guerre, une manière de sublimer la réalité pour en faire quelque chose de vivable, pour permettre aux enfants de se projeter vers un demain si aléatoire. Difficile de mettre des mots sur la réalité de Gaza, tant la situation nous sidère et pourtant. Pourtant, entre les bombardements, quelques enfants dansent. Pourtant, entre les bombardements, Ibrahim Kachan trouve encore la force de partager avec nous des poèmes de son quotidien tragique. D'ailleurs, ces poèmes, que nous recevons chaque semaine, feront l'objet d'un livre qui sera publié prochainement et dont les bénéfices de la vente iront à Gaza. Merci encore à Samia de nous permettre de les lire, parce qu'elle assure toutes les traductions des textes d'Ibrahim. À Gaza, chaque jour apporte son quotidien d'horreur et de désolation. Parlons par exemple de l'hôpital d'Al-Shifa à Gaza, détruit après le siège de l'établissement par les forces israéliennes. Cet hôpital a été ravagé par des combats intenses entre militants palestiniens et soldats de l'État d'Israël. Un appel à dons est présent sur le site de la FPS. Et sinon, vous pouvez nous contacter directement à l'adresse contact@palestine33.org. Et nous vous donnerons la marche à suivre. Mais tout de suite, après une pause musicale où nous écouterons le groupe Almanara, je vais laisser la place à notre premier invité, Jean-Pierre Lefebvre, président de l'association Pourquoi Pas, qui nous fera une petite rétrospective de la semaine très intéressante au Théâtre de l'Inox à Bordeaux.
Donc bon, voilà, tout va bien?
Très bien, je te remercie. Oui. Alors, je t'appelle ce soir pour parler d'une semaine qui a eu lieu au mois de mars, à laquelle Palestine 33 et l'UJFP ont participé, mais au milieu de beaucoup d'associations. Et c'était organisé par ton association, donc, dont tu es le président. Pourquoi l'association Pourquoi Pas? Donc, c'était les exils des mondes passés.
des territoires d'avenir.
Exactement. C'était une belle semaine, très riche, avec beaucoup de choses, beaucoup de réflexions, et je voulais que tu nous en parles un petit peu. Déjà faire le tour, alors il y avait un hommage qui était fait à Mali l'étrange, photographe, globetrotteur, adhérente de l'association Pourquoi Pas, et qui nous a quittés donc, en septembre 2023. Il y avait une exposition de ses œuvres et puis un ouvrage qui était présent. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de Mali l'étrange ?
C'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a longtemps, globetrotteur, hein, prenait son baluchon et elle faisait le tour du monde à l'époque où le monde n'était pas fermé comme il l'est aujourd'hui. Et donc elle a ramené des reportages multiples et variés, elle a vécu dans différents endroits et c'était quelqu'un qui était très dynamique et surtout très ouverte à l'autre. Ça nous semblait intéressant, malheureusement durant cet hommage ça veut dire qu'elle n'est plus là, mais elle a comme tu dis participé dès la création de l'association Pourquoi Pas en tant qu'adhérente et puis en nous fournissant de la matière, hein, puisqu'elle a toute une vie de voyage, elle avait de quoi donner des photos
magnifiques,
qui sont assez parlantes. Hein. Alors notamment, on avait illustré un travail avec elle sur l'école à travers le monde, donc tous ces clichés d'enfants qui se rendaient à l'école ou qui étaient dans des salles de classe avec des conforts, on va dire, très relatifs ou qui faisaient même la classe dehors, en fait, hein, qui n'avait pas de bâtiment pour les protéger. Donc c'était aussi intéressant de voir cela. On l'avait illustré par une exposition sur l'histoire de la laïcité à l'école, alors en France, pour bien montrer aux enfants du monde que les enfants du monde ils sont toujours dans la soif d'apprendre et la nécessité aussi que l'éducation leur soit donnée, quoi, en fait.
Mais oui, ce qui, évidemment, pour nous, a une résonance particulière, en tous les cas, ce soir.
Exactement.
Par rapport à la Palestine, les enfants sont tellement malmenés que grandir dans ces conditions est très complexe, qu'à l'accès à l'école, qui, alors, n'en parlons même pas de Gaza, même en Cisjordanie, c'est très compliqué.
Mais oui, tout alors, à fait. Donc, c'est aussi une volonté des puissants de maintenir aussi un peuple sous leur domination.
Oui, hein, exactement.
Parce que l'école, c'est les clés pour pouvoir s'émanciper et de trouver, en fin de compte, les moyens de vivre une vie sur les deux jambes, quoi,
oui,
hein,
pour prendre une image. Et pour les parents aussi, c'est très écrasant de ne voir aucun avenir pour leurs enfants. Et ils s'accrochent vraiment, en tous les cas en Palestine, ils s'accrochent vraiment, mais je crois que c'est le cas de tous les parents, ils s'accrochent vraiment à l'avenir de leurs enfants, leur donner une éducation. Et c'est ça qu'ils cherchent à casser, en fait, en privant les enfants d'une scolarité normale. Alors, la semaine était quand même, il y avait dans le titre, sur les traces de Flora Tristan.
Flora Tristan, c'est un personnage symbolique de l'association. Elle est morte à Bordeaux, hein, donc elle est bordelaise. Alors, ça nous avait intéressé. Puis, d'autre part, elle recoupe des centres d'intérêt, c'est-à-dire, c'est une féministe, hein, c'est une des premières féministes modernes. Il y en a eu d'autres avant, mais enfin, sous la forme, disons, moderne, liée au mouvement ouvrier. Et la deuxième, c'est qu'elle est justement intéressée par ce qui était l'unité ouvrière, hein, puisque c'est en faisant son tour de France sur Bordeaux qu'elle est décédée. Et comme les dates correspondaient au 8 mars, puisque c'était du 7 au 14 mars, on avait donc envisagé de présenter une pièce qu'on avait créée l'année dernière. Et malheureusement, les actrices n'étaient pas disponibles à ce moment-là. Elles étaient prises sur d'autres projets. Réserver un théâtre pendant une semaine sur Bordeaux, c'est pas simple. Surtout, il faut s'y prendre quasiment un an à l'avance.
Oui.
Alors, il y avait soit rendre les clés, soit de me tourner vers toutes les associations amies que l'on côtoie depuis très longtemps, pour leur proposer de théâtre et puis de faire une semaine associative pour bien montrer aussi, en fait, que les associations, même si elles ont des difficultés, et surtout depuis le Covid, là, c'est très compliqué.
Oui.
Elles ont des potentialités, comme ils disent maintenant en langage économique, de créativité et autres. Et bien souvent, les choses partent des associations. Et puis, on se fait piquer les idées quand elles sont bonnes. Voilà, donc, tu le disais en préambule de l'émission, c'est vrai que la culture, l'art, pour la Palestine, j'aime beaucoup là, un site qui s'appelle Les Femmes Palestiniennes en Lutte, hein, où on voit des peintures, on voit de la musique, de la chanson. Je pense que c'est un vecteur, c'est quelque chose qui va au-delà des mots. Et c'était un petit peu l'idée d'ouvrir à des associations qui font un travail remarquable sur Bordeaux, mais qui sont souvent cloisonnées dans la mission qu'il aurait et qui n'ont pas forcément le temps de se retrouver comme ça. Donc, le titre aussi, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est Exil des mondes passés, parce qu'il y a des territoires d'avenir et que l'on peut construire quand on donne la possibilité de le faire. Et comme tu le disais tout à l'heure, Isabelle, l'école, l'éducation font partie justement de cette possibilité de construire son propre territoire, qui n'est pas forcément géographique, qui est humain aussi, et dans sa relation à l'autre, et puis d'apporter, grâce à ce que l'on sait faire et autres, et ce que l'on affirme aussi dans sa vie, de la richesse, d'échange au moins avec les autres.
Exactement.
Alors, c'était ça le projet, oui. c'est un peu lourd.
Je trouve que c'était très riche parce que les associations travaillaient ensemble et c'est justement, oui, effectivement, comme tu le disais, ça manque aussi ce travail commun aux associations. Parce que par exemple, rien que ça, quand on parle de la Palestine, de la colonisation de la Palestine, le colonialisme, il est pas qu'en Palestine, malheureusement, il est pas qu'en Palestine, et il y a des ressorts communs à tous les colonialismes. Il y a des différences aussi, parce que je pense que le colonialisme s'accroche là où en plus où il peut progresser, mais il y a des ressorts communs à tous les colonialismes dans l'irrespect de l'autre, la négation de l'humanité et dans le racisme, etc. Et donc on peut pas parler du colonialisme en Palestine et du racisme que subissent les Palestiniens, sans se pencher sur tous les colonialismes qui existent de par le monde. Donc voilà, c'est pour ça que ça nous rapproche d'associations comme Cori aussi, d'autres associations. Et c'est bien parce que je pense que ton association de Quapa a permis en tous les cas cette semaine-là de le faire.
Alors c'était une première, en fait, cette initiative, les choses se sont meublées un peu à partir du mois d'octobre, où dans un premier temps on nous a dit « oh mais ça marchera pas », puis on s'est aperçu que ça répondait à des attentes, comme tu viens de le résumer, et surtout pourquoi pas, et puis de Rebellio Éditions, puisqu'on a une maison d'édition, on a ouvert une maison d'édition associative, mes amis et camarades ont dit « il faut aller plus loin », et on est en train de mettre en place, c'est aussi très large, le spectre est très large des associations. C'est difficile de les citer toutes, mais il y a vraiment des gens qui ont déjà beaucoup travaillé là-dessus. De deux journées d'études, on va pas appeler ça colloque parce que ça ferme un peu les choses. Là, ça s'appellera Parole de femmes en migration. Puis notre première initiative de mars, c'est autour du 8 mars sur l'international des droits des femmes. Et là, comme ailleurs, les femmes sont pas forcément, comme le dit la chanson, l'hymne des femmes, ne sont pas encore rentrées dans l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Et cet exil, la façon d'exil aussi, la façon d'être exilé quand tu es femme, c'est pas tout à fait la même que quand tu es homme. Mm-hmm. Les chemins de l'exil, il y a ça déjà à travailler. Et puis sur l'après-exil aussi, l'arrivée, quoi, en fin de compte, dans un nouveau port, et Bordeaux est un port. Donc ça nous a semblé intéressant de voir ça, et on se rendait pas compte, mais la tâche est énorme. Alors il y a du travail qui est déjà fait par des chercheurs, par des gens qui ont déjà balisé le terrain, mais ça sera intéressant sûrement de pouvoir mettre ensemble les aspects, ces différentes pistes ou ces différentes questions qui se posent autour de ces exils-là, vu du côté des femmes.
Oui. Tu vois, pourquoi, avec la possibilité. Rappelle-nous si ça sera pour
alors ça sera le 24 et le 25 octobre et ça aura lieu au musée d'Aquitaine. Donc c'est en construction, hein, donc il y a beaucoup de collectifs qui intervenaient cette semaine. Là, je pense au RAMI, mais si je parle du RAMI, il faut que je parle de mémoire et partage. Si je parle de mémoire et partage, il faut parler de tout le monde, quoi. Mmh. La semaine de culture a lancé une idée de on va aller plus loin, on va discuter, on va essayer d'avancer ensemble. Et à Bordeaux, c'est très riche, hein, au niveau des migrations. Il y a énormément de migrations. Là aussi, dans le temps, hein, s'apercevoir que les migrations ne sont pas les mêmes dans les années 70 et de nos jours.
Et maintenant, oui.
Et maintenant, tu vois. Mmh. Donc, on parle. Là, on avait la présence de Chili et de Chiliens, l'accueil des Chiliens par rapport au coup d'État de Pinochet. Ça n'a rien à voir avec l'accueil que l'on ferait à d'autres peuples, pense aux Vietnamiens, rappelle-toi.
Quand, oui, bien sûr.
Là, aujourd'hui, dans les Ukrainiens, on trouve un logement assez rapidement. Pas sûr que nos frères palestiniens, quand ils viendront ici, seront accueillis les bras ouverts.
J'ai eu l'occasion de voir cette future maman d'origine syrienne qui dormait à la rue à 5 ou 6 mois de grossesse.
C'est ça.
T'es laissée à l'abandon.
Et l'autre chose, c'est donc, ça c'est l'aspect sérieux, mais pour l'instant, on avance. Donc, si des gens à l'antenne sont intéressés, qu'ils te contactent et puis on les rencontrera. Hein.
Oui, ou même qu'ils tapent, je pense qu'ils peuvent sur Internet aller sur l'association Pourquoi Pas, et puis toi te parler quand le moment sera venu, je pense.
Alors, j'en parle dans Histoire de voir. Hein. Tu sais qu'il y a des missions Histoire de voir, Histoire
plus,
au pluriel, qui a lieu le mardi, demain. D'ailleurs, je fais une petite publicité, si tu me permets.
Bien sûr.
Parce que on parlait de migration, on parlait de colonisation, on parlait de guerre décoloniale. C'est le Pays Basque. Nous avons eu la chance d'être invités dans un salon à la fois du vin et des publications progressistes et de résistance.
Oui.
Notre ami André, qui sera là tout à l'heure, a intervenu par rapport au livre Sionisme antisionisme.
Une histoire juive. Une histoire,
je l'ai enregistré d'ailleurs et on l'écoutera l'autre semaine. Donc, bien au Pays-Bas, c'est un peu son niveau. J'ai interviewé, je n'avais pas trop qui était ce personnage, un homme qui vient d'écrire un bouquin, La cuisine sous clé. Il a eu un poste très très important dans le théâtre. Hein. Et qui raconte une lutte pour l'indépendance.
Oui, on en revient à la cuisine, à l'art.
Dans le sujet des migrations, par exemple, le couscous a été pendant très très longtemps le plat préféré des Français, bien que les Algériens notamment soient si peu considérés dans notre univers.
Oui, bien sûr. Bon. Mais voilà. C'est une réappropriation culturelle à chaque fois. Hein. C'est du vol, on prend et on dit que c'est pratiquement à nous, quoi.
Ouais. Ah ouais, tout à fait. Donc c'est aussi une façon d'intégrer, si tu veux. Ça a toujours été comme ça, de toute façon. Ça, c'était notre semaine. Tu vois, on ouvre des perspectives. Et puis la soirée qu'on a passée ensemble autour de la Palestine, parce que dans cette semaine, il y avait une soirée spécifique sur la Palestine. Ouais. On a récolté des sous hein, quand même, hein, parce que bon.
Oui, pour Gaza. Oui.
On peut parler de choses très sérieuses, mais d'une façon aussi peut-être plus légère. André va arriver sûrement, nous a fait donc une conférence gesticulée. Il le dit lui-même, c'est une conférence gesticulée malgré l'arthrose.
Oui, et c'était fort et ça, hein, quand même, il s'est bien débrouillé. Fort, oui.
C'est très très bien, donc dommage que vous ne soyez pas venus, chers auditeurs et auditrices, mais c'est vraiment un spectacle. Je crois qu'il faudrait qu'il le retravaille pour le représenter. Hein. Ouais, ouais.
Il a prévu.
Parce que c'est aussi une façon, c'est aussi une façon de parler de politique. Parler de cuisine, mais l'art, c'est ça, quoi. C'est d'aller au-delà simplement de définition, de mots, c'est ressentir aussi. Hein. C'est ça qui est important.
Et de revenir sur des fondamentaux, je pense en particulier aux plus jeunes. Plus jeunes, donc non pas, parce qu'André nous a parlé aussi de toute son enfance, de sa jeunesse politique. Tout ça, c'est important aussi d'avoir tous ces fondamentaux pour tout le monde.
Oui. Alors on avait ça et puis on avait aussi l'exil. Je pense à quelqu'un que tu aimes bien aussi, c'est Henri Plandé et son musicien avec Elifant. Donc sur la parole plutôt philosophique, c'est quel sens donner à sa vie en fait. Hein.
Oui.
Spectacle qui s'appelle Le vol des éléphants et je vous assure que c'est pas lourd du tout, c'est très fin. Avec de la musique autour, ça aussi c'était quelque chose d'assez intéressant de pouvoir mélanger. De la musique, du théâtre, du slam, de la danse. On a eu aussi la chance d'avoir des danseurs et des danseuses magnifiques. Et puis, cette soirée Palestine s'est terminée par justement de la musique et de la danse.
Voilà, les lectures aussi des poèmes d'Ibrahim Kachan, qui étaient bouleversants, qui ont été lus en arabe et en français. Et les personnes qui les parce qu'on a fait lire les spectateurs et les personnes étaient bouleversées, les spectateurs étaient bouleversés de lire ces textes qui étaient tellement parfois qui étaient dramatiques parce que on parlait de mort parfois ça parlait des animaux, ça parlait justement de la vie, de tous ces petits détails et ça Ibrahim Kachan, c'est le propre des poètes, je pense, à capter le moindre des petits détails de la vie de tous les jours qui fait que justement on sort de l'horreur pendant quelques minutes parfois et on replonge après. Moi je lisais sur Elifandre un petit deux proverbes, un indien et l'autre africain qui étaient notés sur le programme. Si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant, ça c'est le proverbe indien, et le proverbe africain lui répond: si tu n'as pas d'amis sages prêts à cheminer avec toi, résolu, marche seul comme un roi après une conquête ou un éléphant.
Tout à fait. On a fait une journée quasiment Portugal, le 50e anniversaire de la révolution des œillets. On va le fêter bientôt, hein, c'est le 25 avril, donc c'est dans ce mois-ci. Et on a eu la chance d'avoir une association qui s'appelle Au sol des Portugal, qui nous a présenté d'abord des témoignages, enfin de migrantes, d'une pièce qui s'appelle Secret d'étoffe et d'histoire. Hein, ça a été écrit et mis en scène par la Compagnie de l'Aube, avec une chorale aussi, qui chantait des chants populaires et la Révolution. Bien sûr, là aussi, on revient toujours à la cuisine, on a mangé des spécialités portugaises. Et puis aussi faire un grand merci aux adhérents de l'association, pourquoi pas, parce que ils nous ont fait une sélection de lecture de textes de féministes pour cette semaine qui est autour du 8 mars. Et c'était un gros travail, un rendu sympathique. Donc vraiment, on a là-dessus, pas mélanger parce que c'est, chacun avait sa façon de faire, mais recevoir beaucoup de spectacles et de nature différente, hein, mais qui allaient bien sûr dans le sens de l'exil.
Oui. Donc, c'est très riche, merci, hein, c'est vraiment une semaine très riche. Parce
qu'il y a une pièce qui sera jouée fin mai, qui est faite par l'équipe du collectif Estragon, qui s'appelle La Foi Coloniale.
Ah, donc voilà, j'allais t'en parler juste à l'instant, ouais. Là, j'allais te poser la question. Oui.
Et ça, La Foi Coloniale, c'est intéressant, on en reparlera sûrement, parce que c'est toute l'ambiguïté de la Troisième République, hein, là-dedans, c'est que d'un côté, l'Empire était mort, hein, l'Empire de Napoléon, hein, mm-hmm. Et on instaurait une république fragile, hein, au départ, et pour pouvoir rassembler tout le monde derrière, et ben, on allait à la conquête de l'Empire, donc tu avais des républicains qui étaient les premiers colonisateurs, ou qui encourageaient la colonie, hein, de Jules Ferry, ah ben voilà, en passant par les autres, hein, et que bon, là c'est une pièce qu'a écrit Florent Viguier, qui parle juste du maire de La Rochelle, qui d'un côté était progressiste, qui a même défendu Dreyfus, hein, qui était, hein, et qui est mort d'ailleurs en déportation à la fin, puisque les Allemands sont arrivés à La Rochelle, il a refusé de mettre le drapeau allemand sur la mairie, et qui était un artisan de la colonisation à outrance.
D'accord.
C'est aussi les ambiguïtés que nous avons tous les uns comme les autres.
Hein, oui,
c'est
bien sûr.
Pas toujours. Et je voudrais terminer quand même par, puisqu'on est rentré dans le colonialisme, un vrai débat qui a eu lieu avec des gens de Mémoire et Partage,
oui.
Du guide du Bordeaux colonial, du collectif Il faut dénommer l'avenue Thiers, moi-même qui était là pourquoi pas, et puis Olivier Scott qui est adjoint maire à la mairie, et sur le thème, bah, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut dénommer l'État ?
Alors, tu nous donnes quel... Parce que moi j'ai assisté à ce débat qui était vraiment très intéressant.
Ouais.
Je te laisse dire pour l'avenue Thiers, par exemple. Bah,
pour nous, c'est largement insuffisant. Alors, il y a des choses qui bougent. On nous a annoncé quand même une nouvelle assez intéressante. C'est qu'une école primaire aux Aubiers va s'appeler Louise Michel. Alors, la mairie y est pour quelque chose, c'est certain. Mais c'est surtout le personnel de l'école et puis les parents. Hein. C'était l'école Jean Monnet. Ils ont préféré Louise Michel, qui est avant tout, bien sûr, une communarde, hein, qu'on connaît et tout, mais qui est une femme... tout à fait extraordinaire pour son temps, puisque elle définit les règles d'une éducation. Elle a beaucoup travaillé sur ce que c'est que l'éducation, ce que c'est que l'école, ce quoi ont besoin les enfants, en fait. Dans le prolongement, d'ailleurs, de la commune, hein, qui avait fait des propositions d'écoles qui seraient des écoles qui partiraient de la base pour aller vers le haut, et non pas quelque chose de pyramidal, comme c'est fait aujourd'hui. On est très content. Bon, il y a quelque part un écho à notre campagne. On a fait des propositions, par exemple, sur l'avenue Thiers. La mairie ne veut pas, enfin, le maire ne veut pas bouger le.
Oui, sauf pour les bâtiments publics comme les écoles, parce qu'il y a quand même une école Thiers à Bordeaux, si je me trompe.
Exactement. C'est-à-dire que ma position, c'est qu'on ne change. Si elle s'appelle Thiers, c'est qu'elle n'a pas de nom. Puisqu'elle prend le nom de l'avenue, si tu veux. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas de nom. Il y a un gymnase, il n'a pas de nom puisqu'il s'appelle Thiers. Au même titre que sur Bordeaux, il y a, alors que bon, on nous fait des numéros sur la laïcité, il y a énormément de petites écoles qui s'appellent, je prends l'exemple de Saint-Bruno, j'ai rien contre Bruno, ni le Saint, ni les Bruno, hein, c'est pas. D'ailleurs, il y avait un Bruno qui était là dans la réunion. Donc Saint-Bruno n'a pas de nom. Et alors, je suis passé par curiosité, amusez-vous, chers auditeurs et auditrices, si vous avez un peu de temps. Quand vous passez devant l'école Saint-Bruno, vous verrez. Elle porte ce nom parce qu'elle fait partie d'un ensemble qui devait être un ensemble religieux à l'époque, et elle est derrière l'église Saint-Bruno. Et je passe l'autre jour devant, je réfléchissais à ça, et qu'est-ce que je vois dans le jardin ? Enfin, il y a un jardin qui entoure cette église Saint-Bruno. Il y a une Sainte Vierge qui mesure environ 1m20, 1m, voilà, qui prie devant l'école.
Ah oui.
C'est très curieux, ça. Hein. Alors après, bon, on y attache l'importance qu'on veut y attacher. Personnellement, moi, je m'en fous. C'est un morceau de plâtre. Hein. C'est pas le souci. Mais la symbolique, elle est là.
Oui,
c'est intéressant
sûr.
D'aller savoir pourquoi ils ont décidé de mettre une Sainte Vierge face à l'école publique.
Oui, bien sûr.
Donc,
oui.
Ça renvoie à d'autres débats. Hein. Mais
c'est tout un travail à faire. Oui.
Ah ouais.
Et je crois que la mairie, justement, avait peut-être plus l'idée de mettre... En dessous, de garder les noms des rues, alors sauf pour les bâtiments publics comme les écoles, les lycées, universités et tout ça, de garder les noms des rues et de mettre en dessous quand même ce qu'avait fait le personnage problématique en question.
Alors la difficulté qu'ils ont, si tu veux, parce que bon, ça avance pas vite, la difficulté qu'ils peuvent avoir, c'est que à Bordeaux, il n'y a qu'à Bordeaux que ça existe, il y a ce qu'on appelle, pour le nom des Russes, ça s'appelle la viographie. C'est une contraction de deux termes, grec et latin, qui s'est mise en place il y a très longtemps. Donc il y a des rythmes de fonctionnement, il y a des habitudes et tout. Et il y a seulement que quelques mois à peine, qu'il y a eu une réforme de cette commission de biographie, donc pour pouvoir notamment accélérer les choses. Parce qu'il y a tout un système qui existe, qui a été mis en place par le temps, qui fait qu'il y a des grosses lourdeurs. Donc quand on décide de changer un nom de rue, on a un répertoire, en fin de compte, de personnalités qui ont été retenues, et on va choisir celle qui arrive, qui est la plus ancienne, pour pouvoir mettre le nom de la rue. Donc le débat qu'on avait, justement, c'est que certes, on va avoir des noms nouveaux, mais il faut faire des priorités, notamment, c'était aussi le thème du débat, c'était de dire que l'absence, on parlait tout à l'heure que les femmes ne sont pas rentrées dans l'histoire, la preuve, c'est que dans le nom des rues, et Bordeaux n'a pas à se plaindre, on doit avoisiner seulement 10% de noms féminins.
De noms féminins, oui.
La mairie a pris conscience de cela, et sur les 45 ou nouveaux noms qui ont été attribués l'année dernière, il y en a au moins 37 qui sont des noms, ou 36 qui sont des noms de femmes. Hein. Donc on dit c'est chouette, mais pourquoi pas 45 ? Parce que il y a des centres à Bordeaux, vous savez, ces petites rues là, dont personne n'habite, où oui. On va pas mettre un nom, hein, parce que ça peut aussi être vexant.
Voilà, c'est ça. C'est ce qu'a dit Olivier Scott. Oui.
Voilà, Toussaint Louverture, il a droit à une impasse. Quoi. Bon, je veux dire, c'est une symbolique. Toussaint Louverture, c'est pas n'importe qui, quand même. Bon, il mériterait peut-être une rue. Hein. Et donc, le problème qui se passait, c'est que pour pouvoir modifier ça, vu qu'on ne veut pas toucher au nom du Bordeaux Centre, eh ben, on va nommer des noms de rue, mais disons dans la périphérie bordelaise. Hein. Là aussi, ça crée une sorte de déséquilibre, mais oui. Qui peut s'expliquer, encore une fois. Bon, moi, j'ai pas pris ce genre de tête systématique, hein. Mais bon, qui peut être gênant. L'avenue Thiers, bon, c'est la plus grande avenue de Bordeaux, hein, pour en venir à celle-ci. Elle fait plus de 2 km, je crois. Elle fait 2 km. Hein. Qui en plus clinique, oui, bon, il y a un problème, ça ne peut pas le faire. Quoi.
Oui,
là, je pense que c'est une frilosite. Bon, pas très correct.
On aurait encore beaucoup de choses à voir avec toi. Mais bon,
Et alors, ce qui est rigolo, c'est que tu sais, comme je suis à ta place habituellement, donc je suis pressé par le temps, donc là je suis chez moi,
oui.
Et je suis assis, je suis tranquille, tu vois.
Et alors moi j'ai encore deux coups de fil à passer, je dois appeler Philippe Arnaud pour le collectif Georges Abdallah, et André après, qui lui est à Montpellier. Est à Montpellier pour la création pour le travail sur la création du guide du Montpellier colonial.
Colonial, voilà. Formidable.
Donc,
une grosse collection là, qui se met en place.
Et oui, ça fait une belle collection.
Je vous salue, tu salues tes invités, puis je t'embrasse et j'embrasse tout le monde si je peux.
Merci.
Ou du moins, je vous salue avec beaucoup d'affection.
Moi aussi, Jean-Pierre, à très bientôt.
Ciao.
Bonne soirée, au revoir. Alors, nous allons écouter à présent un petit peu de musique avec Gitan en Orient. À tout de suite.
Histoire de voir, Histoire au pluriel, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que vous avoir intéressé, bien sûr. Et puis, on est impatient de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission et de nouvelles histoires à vous raconter.